Bien, allez, on attaque cette dernière ligne droite de cette journée passerelle. Journée passerelle consacrée à la relation entre la consultance et les sciences humaines et sociales. Alors, des journées passerelles, il y en aura d'autres. L'une en mai 2016 sur les prisons et les institutions de contrainte. Et une autre en novembre sur la démocratie participative, novembre 2016, donc à l'approche de 2017. L'idée, c'est de faire communiquer des publics qui n'ont pas l'habitude de se retrouver ensemble dans le même amphi, en tout cas dans la même pièce et au même moment. Et pour ça, l'idée, c'est aussi de développer une communication qui ne soit pas scientifico-scientifique, mais aussi axée vers le tout public. Avoir une discussion, avoir un discours simple, clair, efficace, mais aussi, qui donne à voir une dimension qui, dans la communication scientifique, n'apparaît pas toujours, voire rarement, à savoir la passion. Ce moteur qui nous anime, et sans lequel rien de ce que l'on fait ne serait possible. Alors, nous, en sciences humaines, on a des capacités d'innovation qu'on n'imagine pas. Mais essayons de tourner la question un instant dans un autre sens. Vous êtes des investisseurs. Vous avez 10, 15, 20, allez, rêvons un petit peu, 50, 100, 150 000 à mettre sur la table. Ah oui. Vous êtes opérationnel, vous cherchez un prestataire qui est capable de vous délivrer une étude à haute valeur ajoutée. Vous êtes un chef de service et vous cherchez un collaborateur. Pourquoi faire appel à un docteur, à un chercheur ? Alors une partie de la réponse, vous l'avez entendu ce matin, mais je la redis ici, vous la retrouverez aussi dans la littérature consacrée à la mobilité professionnelle pour les docteurs. Les docteurs sont reconnus pour avoir un supplément de compétences, ou en tout cas une articulation de compétences, un profil de compétences que l'on ne retrouve pas toujours ailleurs. Par exemple, créativité, rigueur, expertise. Je vous laisse découvrir, il y a plein de rapports là-dessus. Si vous ne connaissez pas encore, il y a aussi un site qui s'appelle Techneo, qui a été fondé par l'ABG, aussi par le MEDEF. Allez-y, allez voir, vous trouverez aussi sur Google beaucoup de rapports de la PEC, de Doc Talent Management, sur les compétences. Je vais vous placer sur un autre terrain. Ce que je vous propose, c'est faire un double focus. Un premier focus sur les sciences humaines et sociales, et sur un certain type de sciences humaines et sociales. Le type de sciences humaines et sociales que nous faisons ici. Alors, essayons de faire simple. On est en phase de communication. Je prends les sciences humaines et sociales. À la hache, je les sépare en deux. D'un côté, les sciences sociales, expérimentales, dont le profil est tiré et hérité des sciences exactes, avec une dimension répétition, statistique, régularité. Et l'idée, la perspective d'ajouter une petite théorie, en tout cas une théorie bien définie, bien isolée, sur une sorte de pyramide des connaissances. Et on a de l'autre côté, les sciences humaines, celles qui entreprennent de comprendre les interprétations subjectives, les représentations. On a l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la philosophie. Dans ce système-là, on est davantage dans une mise à jour permanente des connaissances, mais avec une dimension singulière. On n'est pas tout à fait dans l'image du progrès qu'on a là. Alors si je suis investisseur, moi je vous recommanderais d'investir ici, là, dans ces sciences humaines et sociales là. Pourquoi ? Alors vous l'avez déjà entendu ce matin, je voudrais juste vous livrer une image. Cette image, c'est imaginez que les sciences humaines et sociales, ces sciences humaines et sociales-là, soient comme une carte. Et que le chercheur en sciences humaines et sociales soit un cartographe. Vous avez différentes autoroutes, des autoroutes de pensée, des réflexes. Par exemple, si on vous dit, vous connaissez le texte sans doute, si on vous dit outil, marteau. Si je vous dis par exemple, imaginez une fleur, en général c'est la rose. Et c'est la même chose au niveau des milieux professionnels. Si je vous parle par exemple des contraintes de programmation dans les systèmes bancaires avec les systèmes de transactions et des bases de données, normalement je vous perds un petit peu. Probable. Il y a donc à la fois des autoroutes, mais à la fois des fossés, des espaces moins densément peuplés ou bien moins densément moins évidents. L'idée c'est que derrière cela, et nous sommes ici d'ailleurs dans un de ces espaces-là, S'il y avait une évidence dans la communication entre public académique et public extra-académique, cette journée n'aurait pas lieu d'être. Donc nous avons d'un côté des territoires différents, un monde peuplé de territoires, et le chercheur fait le lien, fait continuellement ce lien entre plusieurs territoires, entre d'un côté un territoire, une perspective empirique, une perspective théorique. Alors, si je suis opérationnel, la perspective théorique ne m'intéresse pas. Par exemple, si j'ai une carte, ça ne m'intéresse pas de savoir si elle a été faite sur tel ou tel système de coordonnées, s'il y a un nord vrai, un nord magnétique, etc. Moi, ce que je veux, c'est passer du point A au point B. J'ai même pas besoin de carte pour ça. À la rigueur, si c'est pour faire mon trajet quotidien, je n'en ai pas besoin. En revanche, pour explorer des terrains inconnus, là, ça devient intéressant. Explorer des terrains inconnus, vous l'avez entendu ce matin, c'est par exemple Dominique Desjeux, dans son travail d'anthropologue, qui propose une découverte des cultures chinoises ou asiatiques donc, pour l'exploitation de produits d'entreprise. Vous avez aussi, il arrive aussi que vous soyez un petit peu perdu, on peut être perdu chez soi. Par exemple, la sociologie des organisations intervient pour soulever les dysfonctionnements d'une entreprise. Là, vous avez une demande qui émane de clients dont la demande est déjà cernée. Elle est pré-étiquetée, ou en tout cas, elle est suffisamment précise pour générer ce réflexe de recours aux sciences humaines et sociales. Mais le cœur de mon argument, c'est la situation inverse. La situation où le problème n'est pas encore défini. Il reste flou. J'ai tiré de la participation d'une de mes conférences cette phrase que je vous livre. Le chercheur apporte des réponses à des problèmes qui ne sont pas encore posés. Vous l'avez déjà entendu ce matin de nombreuses fois. Un exemple que j'ai entendu lors de mes discussions, un ingénieur et un chercheur sur la réalité virtuelle me disent « On voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge ». On ne comprend pas. Il y a des écrans partout, il y a les modes de travail évoluent, la manière de concevoir les objets évolue, mais nous n'avons pas le recul. Est-ce que les sciences humaines peuvent nous aider à obtenir ce recul? Je pense que je ne me suis pas trompé en disant oui, peut-être. Et un autre exemple, un petit peu plus profond, entre guillemets, lorsque j'ai interrogé une personne qui est chargée des nomenclatures. Nomenclature statistique dans une grande organisation internationale. Il vivait d'une certaine manière avec douleur le fait que le sens des données telles qu'il les collectait était rompu lorsqu'il les transférait au comité de décision. Et je lui ai dit, mais c'est magnifique, c'est un vrai sujet de thèse, ça, c'est un sujet de thèse en sciences humaines. Il me dit, ah bon, les sciences humaines font ça ? On sera parvenu à quelque chose. Dans l'idéal, on arriverait à susciter le recours à la carte des sciences humaines et sociales, au moment où on atteint cette frontière des représentations. Et pour cela, on voit aussi qu'on touche quelque chose du doigt lorsque, comme on l'a dit aussi ce matin, on mélange des profils chercheurs et ingénieurs, et on voit que cela fait émerger des questions, des problèmes. Alors le problème, ce n'est pas un mur, le problème... Il faut l'imaginer plutôt comme un rond-point avec différentes sorties, différentes portes de sortie et différentes opportunités de créer de nouveaux raccourcis. Aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue sans cesse. Alors c'est vrai, aujourd'hui, et on le sait aussi, c'était vrai aussi hier. Et je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Jean-Michel Dalle. Vous vous souvenez d'un mot qu'il employait ? Lean. Ça vous dit quelque chose ? Lean ? Il en a parlé. Si vous êtes en innovation, vous entendrez souvent parler de ce terme-là. Lean Startup, Lean Développement. Ça veut dire agile. Agile signifie qu'à chaque moment, on redéfinit les objectifs et les moyens mis en œuvre. Et dans cette perspective-là, les startups font du Lean. Globalement, font du Lean. Dans cette perspective-là, vous avez vachement intérêt à avoir une carte à jour. C'est là, à mon avis, que les sciences humaines et sociales que nous proposons ont une carte à jouer. En tout cas, je vous invite à la valoriser. Alors, je vais passer la parole à Jennifer Gallet, qui va ensuite nous présenter six explorateurs. L'une des pitchers doit être excusée. Et donc, Jennifer, vous êtes journaliste. Journaliste, et vous avez une formation de philosophie. Aujourd'hui, journaliste à The Conversation, qui est un journal très particulier et dont les articles ont été rédigés par des chercheurs.
Merci. Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous. Donc, le projet auquel je participe et qui s'appelle donc The Conversation, qui est seulement présent sur Internet, c'est aussi un exemple de rencontre, d'interdisciplinarité et de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire le fait de faire se rencontrer des gens qui ne sont peut-être pas toujours destinés à se rencontrer. Donc nous, c'est assez simple, on est une petite équipe de journalistes et en fait, on est en retrait, c'est-à-dire qu'on va utiliser nos compétences journalistiques qui consistent à chercher de l'information, vérifier de l'information, croiser des données, etc. On utilise ces qualités-là pour aller interroger l'expertise, donc sur des sujets très variés qui sont évoqués dans l'actualité. On va aller solliciter des chercheurs pour nous éclairer sur des domaines spécifiques. Donc là, vous avez vraiment un exemple de rencontre. C'est d'ailleurs ce qui vous amène aujourd'hui ici, qui est très fécond parce que on me demande souvent si ça me dérange en tant que journaliste de ne pas écrire sur ce site qui est vraiment dédié à éclairer l'actualité. Et moi, je trouve que sur ce projet, chacun est vraiment à sa place et les croisements entre les compétences sont très riches. Donc je vous incite à aller jeter un œil sur The Conversation et pourquoi pas à nous proposer des sujets puisque nous sommes ouverts à toutes les bonnes contributions. Donc je vais maintenant passer la parole à d'autres types de chercheurs. Donc Noémie n'a pas pu venir, donc je vais passer tout de suite la parole à Juliane pour une présentation. Donc l'idée c'est de présenter en une petite dizaine de minutes le projet, la démarche. Ce qu'on va faire pour éviter de vous présenter tout le monde d'un seul coup, c'est qu'on va avoir deux projets qui seront présentés et puis on aura des questions si vous en avez. Puis on enchaînera sur trois autres projets des questions et on terminera avec la dernière personne à intervenir. Voilà, pour éviter de vous... pour vous permettre de soutenir votre attention. Voilà, je vous remercie.
Bonjour à toutes et à tous. Déjà, j'aimerais vous remercier d'être là, d'être encore là, de ne nous avoir pas laissé tout seul pour la fin. Je m'appelle Julien Fernandez, je suis doctorant en sciences politiques à l'Université de la Sorbonne, Paris. Lucie, je remarque que, heureusement, le titre n'a pas été coupé parce que je viens de voir la diapositive qui précédait. C'était uniquement marqué « Entre deux feux ». Je croyais que vous allez croire que c'était une thèse sur les pompiers, mais ce n'est pas du tout ça. Et, en fait, il s'agit d'un problème qui surgit en Colombie quand il y a eu l'instauration des conventions internationales des contrôles des stupéfiants. Et à ces moments-là, il y a il y a des controverses autour de normes internationales avec une coutume locale. Alors, je vous invite à regarder un peu l'image qui est sur la diapositive. En fait, il s'agit du jour des possessions du président de l'actuel président colombien Juan Manuel Santos. La première chose qu'il fait ce jour-là, c'est qu'il se rend au sommet d'une chaîne montagneuse au nord-ouest de la Colombie, ça s'appelle Sierra Nevada de Santa Marta. Cet endroit, il abrite une communauté indigène qui est très emblématique en Colombie, qui s'appelle le Cogi. Et c'est un acte symbolique, c'est une façon de montrer que les communautés indigènes ont plus de place dans la scène politique et sociale colombienne. Mais ce qui se passe, si vous pouvez regarder, ils ont quelque chose dans la bouche. En fait, il s'agit de la mastication traditionnelle de la feuille de coca, des communautés indigènes, bien sûr, colombiennes. Et du coup, cette activité-là, ça n'a pas l'air d'être une activité interdite. Le président, il est là. Mais en fait, sous la loi internationale, cette activité, elle est interdite. En fait, l'histoire commence en 1961 avec la première convention qui demande aux pays signataires de faire en sorte que l'utilisation licite pour des substances qui ont été soumises au contrôle doit être uniquement la médecine et la science. quand je parle de substances qui ont été soumises au contrôle, j'ai fait référence à ce qu'on appelle aujourd'hui drogue. Du coup, la feuille de coca, elle est considérée comme une drogue. Du coup, elle doit être utilisée uniquement pour la médecine et la science. En ayant cette idée dans l'esprit, la pratique de mâcher la feuille de coca est interdite et les traités internationaux demandent aux pays de faire en sorte que la pratique soit éliminée. La Colombie se trouve en face d'un dilemme. D'un côté, respecter ses engagements internationaux en matière de contrôle des stupéfiants et de l'autre côté, respecter les droits des peuples indigènes. Les conflits, ils ne se présentent pas toujours de la même manière, ça change. Dès 1961 jusqu'à nos jours, ce que j'essaye de faire avec la thèse, c'est d'avoir deux angles d'analyse. Alors, du coup, les premières, il s'agit de comprendre comme une norme internationale est finalement intériorisée. Ces normes qui sont signées dans des pays très très loin, comme c'est l'Autriche ou les États-Unis où les conventions ont été signées. Et comment ça s'est traduit en politique publique d'une petite réserve indigène à l'intérieur d'un pays comme la Colombie. Et de l'autre côté, il s'agit aussi de comprendre comment on peut gérer des situations conflictuelles, deux systèmes de normes qui rentrent en conflit. Afin d'y parvenir, nous avons fait un travail très important avec les archives en Colombie. Nous avons aussi suivi une démarche ethnographique en faisant des enquêtes et on était à côté des acteurs, des principaux acteurs impliqués dans cette question-là, notamment le leader des communautés indigènes. Il faut aussi vous dire que à partir de l'année 2000, les communautés indigènes sont en train d'établir des projets afin de pouvoir commercialiser la feuille de coca aussi sous forme des thés ou des gâteaux. Et nous avons fait toute une démarche à côté d'eux, mais aussi avec des membres du Congrès colombien qui se sont prononcés sur les sujets, mais aussi des magistrats. Nous pensons qu'une fois cette thèse sera finie, nous pouvons contribuer à la littérature de sociologie des normes internationales, mais aussi donner des données de l'évidence scientifique, empirique, à des personnes qui sont en train de prendre des décisions publiques liées aux stupéfiants, mais aussi liées aux droits des peuples indigènes, afin que ces décisions-là puissent être prises avec des données réelles. Et qu'il ne s'agit pas simplement de la vision qu'ont certaines personnes qui sont en train de prendre des décisions loin de l'endroit où cette décision-là doit être mise en place. Je vous remercie.
Je propose qu'on avance. Voilà, on va passer la parole à nos trois prochains intervenants. Donc Lorenzo, Pierre et Gauthier, et je vous propose de faire vos interventions, de les enchaîner, puis on repassera à des questions après vos trois interventions. Voilà, je laisse la parole. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lorenzo Scalchi, je suis doctorant en sociologie à l'EHESS, et mon sujet de thèse concerne la figure de... il faudrait changer la... Alors, comme vous voyez, je travaille sur un sujet de thèse qui concerne les succès de la figure de l'entrepreneur libériste, c'est-à-dire de l'entrepreneur qui se considère un self-made man dans la société italienne, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. En plus, j'ai fait une recherche action dans les 2015 sur le sens de responsabilité sociale que ces entrepreneurs, en particulier de la Vénétie, c'est-à-dire du nord-est italien, expriment normalement. Mais je suis là aujourd'hui, pas seulement parce que je suis intéressé à la consultance en tant qu'opportunité de travail, je suis là aussi pour réfléchir sur comment un sociologue consultant peut influencer les choix individuels de l'entrepreneur. Et alors, la question centrale que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est de comprendre quels sont les espaces d'intervention pour un sociologue dans une entreprise. Je parle d'un sociologue, mais comme nous avons dit avant, on pourrait bien parler d'un anthropologue, d'un historien, c'est-à-dire des sciences, des représentants de ces sciences humaines et sociales interprétatives. Et pour réfléchir sur la question, je vous propose trois points de discussion. Le premier, pourquoi un sociologue est une figure importante dans une entreprise? Deuxièmement, quels sont les obstacles à cette entrée? Et troisièmement, quel type de remèdes on peut penser pour faire face à ces obstacles? Alors, le premier point, l'importance. Un sociologue, je crois qu'il est important parce qu'il, on l'a dit ce matin beaucoup, il joue un double rôle. C'est-à-dire qu'il est un acteur à la fois interne, il a les besoins méthodologiques d'observer, d'écouter, de recueillir des histoires et de participer parfois à des activités, mais il est aussi un acteur extérieur. Il a les besoins d'étudier, de se distancier, de faire des comparaisons. Et ce rythme, en ce sens, entre l'intérieur et l'extérieur est pour moi très important pour comprendre pas seulement les moments de crise d'une entreprise, pas seulement la réalité, on peut dire, individuelle d'une entreprise, mais aussi les obstacles sociaux, les contraintes sociales, la réalité ordinaire. Et parce que, après, il faut dire qu'une problématique sociale, une problématique économique n'a pas un seul responsable. Ce n'est pas l'entrepreneur qui est le seul responsable d'une problématique. Et donc la sociologie, en tant que science sociale comparative, qui se base beaucoup sur la comparaison, a pour moi le devoir, l'obligation de faire des comparaisons, d'étudier ce que les autres font, c'est-à-dire d'enquêter la réalité ordinaire, c'est-à-dire les quotidiens cachés. Et ces quotidiens cachés, il est important parce qu'il peut découvrir une série de solutions que l'entrepreneur ne voit pas. Alors, pour faire un exemple, pour mieux clarifier ces concepts, je vous parle de la recherche sur la responsabilité sociale de l'entreprise que j'ai fait et en Vénétie. Finalement, on a découvert que l'entrepreneur, les petits et les moyens entrepreneurs italiens, se sent beaucoup responsable seulement pour le personnel, ses employés, son entreprise, et ne se sent pas responsable pour le contexte social dans lequel il est enraciné. Et on a essayé avec la Chambre de commerce de la Vénétie de faire un travail de médiation pour faire comprendre qu'il y avait des problématiques, comme une augmentation de la pollution qui concernait une dizaine d'entreprises, des petites entreprises. On a essayé de faire une médiation et de d'influencer les gens afin qu'ils prennent des consciences sur les problèmes. Et on a essayé, on a cherché d'élargir ce sens de responsabilité sociale. Mais on a réussi à le faire pour la moitié, parce qu'il y a aussi beaucoup d'obstacles. Et je vous parle maintenant des obstacles qui se réfèrent beaucoup à la réalité italienne. Ces obstacles ne sont pas des obstacles comme la crise économique, le manque général de ressources qui empêche le fait qu'un entrepreneur peut investir dans un sociologue consultant. Ils sont bien des obstacles intéressants à les comprendre, mais je vous parle de conditions de légitimité pour entrer dans une entreprise, c'est-à-dire de conditions très réelles qui deviennent évidentes lorsqu'un sociologue demande ou est demandé d'entrer dans une entreprise. Et ces obstacles sont premièrement l'idée d'une entreprise petite et moyenne en tant que micro-monde, c'est-à-dire d'une entreprise qui se considère une réalité sociale fermée vers l'extérieur, avec l'entrepreneur qui est le centre, le pouvoir charismatique, et qui ne se sent pas responsable vers son contexte social. Cette idée de l'entreprise comme micro-monde empêche la dimension comparative de la sociologie, ou de l'anthropologie, ou d'autres sciences sociales. Et un deuxième obstacle, on l'a répété beaucoup ce matin, c'est l'idée d'avoir l'entrepreneur, et ça dérive de mes interactions, des entretiens que j'ai eus avec les entrepreneurs, il me disait qu'il avait besoin de résultats immédiats, profitables, et quantifiable. Et c'est un peu un travail difficile à faire si on a pas le, si on vient de sortir de l'université, parce que de l'académie dans ces sciences sociales. Et le troisième obstacle, c'est un peu la somme entre ces deux. En effet, j'utilise ici une réflexion faite par le sociologue Stéphane Effliger, qui, dans les 2006, a publié un article qui s'intitule « Posture, imposture du consultant ». Et il fait un raisonnement sur le risque pour un sociologue d'être transformé dans d'autres postures. C'est-à-dire, par exemple, la posture de l'expert ou la posture de l'exécutant. L'expert, il est une autorité externe qui propose à l'entreprise, à ses clients, un plan d'action immédiat déjà défini. L'exécutant, au contraire, c'est un employé de l'entrepreneur. Il dépend du point de vue de l'entrepreneur. Alors, quel est le remède possible ? Effliger, et moi je suis totalement d'accord, on propose une troisième posture, la posture du sociologue consultant partenaire. C'est-à-dire un sociologue qui construit un partenariat, un contrat avec l'entrepreneur et donc qui n'est pas ni une autorité ni un subordonné. Il a le même statut social de ses interlocuteurs, soit qu'il soit l'entrepreneur ou le travailleur. Deuxième point positif, la méthodologie participative. Les partenaires peuvent en effet introduire des méthodologies participatives pour trouver des solutions, pour diagnostiquer des problèmes collectivement, trouver des solutions collectivement et pour restituer, en faisant une médiation, les solutions trouvées à l'ensemble des interlocuteurs. Et je pense que ces méthodologies peuvent apporter une adhésion plus forte des travailleurs ou de l'entrepreneur aux solutions trouvées. Et le troisième point, c'est le fait que le sociologue consultant, il est totalement capable de restituer, donc de faire, j'ai déjà dit, une médiation, mais encore restituer le travail sans le produire lui-même, sans avoir des interactions avec les travailleurs. Donc j'espère, pour conclure, que d'avoir vous illustré l'importance de la sociologie, mais aussi des risques, des obstacles. Et il faudrait bien réfléchir si vraiment le consultant partenaire peut être la figure plus utile pour faire face à ces obstacles. Je vous remercie pour l'attention.
Donc bonsoir, merci d'être encore là. Donc je me présente, Pierre Nocerino, je suis en thèse à l'EHESS, où je travaille, donc une thèse de sociologie, où je travaille sur les auteurs de bandes dessinées. Donc, alors pour vous présenter rapidement cette thèse, à la base elle vient d'un étonnement, d'une surprise, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce groupe professionnel. C'est-à-dire que je m'attendais à un métier assez solitaire, et j'ai été déçu, je me suis rendu compte qu'en fait les auteurs de bandes dessinées travaillaient avec énormément de personnes, que ce soit d'autres auteurs, mais aussi des éditeurs, des libraires. Bref, ils rencontraient énormément de monde. Donc il y a eu déjà cette première surprise. Et une seconde surprise ensuite, c'est que moi je m'imaginais un métier finalement assez sympathique. Et encore une fois, j'ai été assez déçu, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était un métier assez difficile, où il y avait beaucoup d'auteurs qui exprimaient une forme de souffrance au travail à cause des pressions qu'ils pouvaient subir de la part des éditeurs, d'un rythme de travail qui était vraiment trop important, ou même des difficultés à vivre de leur métier. Donc voilà, c'est ces deux étonnements qui m'ont incité à démarrer une thèse, et c'est des étonnements qui se sont assez rapidement transformés en une forme de paradoxe, dans le sens où, comme dans de nombreux métiers, quand les choses ne vont pas, on se réunit et on émet des revendications, et effectivement les auteurs ne sont pas, comme les autres, se sont réunis dans des associations, dans des syndicats, et ont commencé des formes de revendications pour améliorer leur statut, leurs conditions de travail. Et en fait, c'est là que j'ai pris conscience d'un paradoxe, c'était que dans des situations relativement équivalentes, pour des revendications relativement semblables, dans des conditions assez proches, il y avait certaines situations où la mobilisation marchait très bien, les auteurs de bandes dessinées réussissaient à se réunir et à lancer des actions collectives. À d'autres moments, ils n'y parvenaient pas du tout. Il y avait au mieux 10 personnes qui répondaient à l'appel. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça, tout l'objet de ma thèse de doctorat, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi, des fois, la mobilisation, ça marche, et pourquoi, des fois, ça ne marche pas. Donc, pour essayer de répondre à ce pourquoi, essayer d'expliquer pourquoi ça marche ou ça ne marche pas, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Donc, pour ça, j'ai mis en place une enquête ethnographique. Donc, ça a déjà été présenté par Leïla tout à l'heure. Donc, merci de me faire économiser du temps. Donc, très concrètement, je suis les auteurs de bandes dessinées dans leur mobilisation pour voir comment est-ce qu'ils s'organisent, comment ils recrutent des gens. Mais aussi, le parti pris, ça a été j'ai décidé de vraiment les suivre dans leur travail quotidien, c'est-à-dire de les suivre aussi dans leurs ateliers, les regarder travailler, les regarder dessiner. Les regarder aussi aller en festival pour essayer de comprendre en fait à quel moment finalement ils vont décider non plus de rester à se plaindre de leur situation singulière, mais de s'organiser collectivement pour avoir des revendications et organiser des formes de mobilisation. Donc, tout l'enjeu de ma thèse sera d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes sociaux qui soit vont dans le sens d'une plus grande collectivisation de l'action, soit au contraire qui vont inciter les auteurs à se réfugier sur leur sphère singulière. Donc comme vous l'imaginez, je lis des bandes dessinées, je rencontre des auteurs de bandes dessinées, je lis des bouquins sur la bande dessinée, bref, je vis un peu 24 heures sur 24 dans la bande dessinée, et en fait, pour ne rien arranger, j'ai décidé d'en faire moi aussi. Donc voilà, depuis 2013, j'ai lancé un blog de sociologie dessinée, où j'expérimente différents modes de coopération entre ces deux univers. Donc c'est un blog que j'ai créé avec une amie qui, elle, est professionnelle de la bande dessinée, donc elle est auteure. Et on a véritablement pu expérimenter des formes d'écriture à quatre mains pour véritablement avoir des bandes dessinées, mais qui traitent de sociologie. Alors quand je parle d'écriture à quatre mains, je devrais plutôt parler d'écriture au pluriel, parce qu'en fait, on a essayé de s'adresser à des publics très différents. Parfois des publics très universitaires. Donc, pour donner un exemple concret, c'est des formes d'ethnographie dessinée. Donc, je parlais de ma méthode tout à l'heure. Au lieu de la retranscrire en mots par un texte, je la retranscris sous forme de bande dessinée. Donc là, clairement, le public, il est universitaire, le public visé. Mais inversement, j'essaye aussi d'avoir des formats plus courts, plus décalés, plus amusants pour faire ce que l'on appelle de la vulgarisation de la sociologie, en gros. Donner à voir au lecteur, essayer de lui faire comprendre un livre, un auteur, une idée parfois, ou un débat qui est dans l'univers de la sociologie, mais vraiment dans le but de le rendre compréhensible par tous, par vraiment toute personne qui, même si elle n'a jamais fait de sociologie. Donc en fait, cette expérience, à mon sens, elle était particulièrement intéressante, parce que le fait de travailler à deux, un sociologue, une auteure de bande dessinée, ça permettait de mettre en avant le fait qu'on avait donc des compétences différentes, évidemment, mais aussi des exigences différentes. On se rend compte que dans nos milieux, on a des critères d'évaluation qui nous sont propres, et l'intérêt de cette expérience, c'était d'essayer d'honorer des critères d'évaluation pluriels, mixtes, et donc d'essayer de contenter des personnes qui aiment de la bande dessinée, mais aussi des personnes qui aiment de la sociologie. À mon sens, ça, c'est vraiment un enjeu qui est... ça permet de rejoindre un enjeu qui est vraiment primordial par rapport au rôle que peut avoir la sociologie. Ça a été un peu évoqué dans cette journée. On associe souvent à la sociologie l'idée que c'est une discipline, et même les sciences sociales, au général, ce sont des disciplines qui permettent d'avoir une posture critique, une posture de distanciation, qui vont permettre d'avoir un regard différent sur la société et éventuellement d'améliorer les choses. Bon, alors déjà, il faut savoir qu'en sociologie, on n'est pas tous d'accord sur la manière de faire de la critique. Il y a des grandes discussions sur comment critiquer, il y a différentes postures. Voilà. Par contre, s'il y a une chose sur laquelle, je pense, tous les sociologues seront d'accord, c'est que cette critique, pour qu'elle ait du sens, il faut qu'elle soit accessible, il faut qu'elle soit diffusable, il faut qu'il y ait des publics plus larges que simplement des universitaires qui puissent y accéder. Et à mon sens, le fait de passer par un média différent, comme la bande dessinée, mais ça peut être aussi le documentaire ou plein d'autres formes, peuvent encourager justement les chercheurs à s'exprimer vers des publics différents, et donc éventuellement de faire passer des outils sociologiques à un public qui n'était pas destiné par ces outils à la base. Alors, quel lien avec la consultance ? Tout simplement, cette forme de bande dessinée sociologique, elle peut tout à fait être intégrée dans un projet de consultance. Alors déjà, il faut le savoir, la bande dessinée, elle est déjà très utilisée par les entreprises. Ça reste peut-être encore marginal, mais de plus en plus. C'est vraiment un outil de communication qui est très utilisé, que ce soit pour de la communication interne. Une entreprise veut que ses employés connaissent absolument les normes de sécurité. Le fait de le faire passer par une bande dessinée, ça sera beaucoup plus lu qu'un texte. Communication interne, mais aussi communication externe, si vous voulez donner des informations à vos clients sur quelle est votre entreprise, quel est le type de service qu'elle fournit, qu'est-ce qu'elle a fait dans l'année, etc. Bref, la bande dessinée est très utilisée, mais à mon sens, elle pourrait être encore utilisée plus sous cette forme de bande dessinée sociologique, ou même, je dis sociologie parce que c'est ma discipline, mais on peut imaginer différentes formes de sciences sociales graphiques. Et à mon sens, elles peuvent véritablement améliorer, ou en tout cas créer des situations plus faciles de consultance. Et ça, je le dis notamment après avoir écouté toutes les interventions de ce matin. Donc, comme je l'expliquais, le fait de réussir à faire cette bande dessinée sociologique, c'est parce qu'on s'est retrouvé deux professionnels où on a pu partager ce que j'appelais nos critères d'évaluation. Le fait d'être dans un système de consultance, en fait, c'est juste intégrer un autre acteur, un commanditaire, qui va avoir ses propres critères d'évaluation. L'avantage de proposer une restitution sous forme de bande dessinée, c'est qu'on va être obligé d'expliciter ces critères d'évaluation pour réussir à travailler ensemble et finalement assurer cette traduction qui était évoquée ce matin dans l'une des tables rondes. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les liens possibles entre bande dessinée et sociologie. Merci, merci à tous.
Bonsoir à tous, merci d'être ici. Alors, je m'appelle Gauthier Maria, je suis étudiant à l'EHESS, donc je ne suis pas encore doctorant, donc je ne vais pas m'apesantir sur mes recherches. Mais par contre, j'aimerais vous raconter une histoire, parce que c'est un peu l'heure, il commence à faire tard, donc une histoire que je connais bien, parce que c'est la mienne, et je pense qu'elle est intéressante, parce que je suis un habitué, en fait, des passages, des allers-retours entre le monde professionnel de l'entreprise et le monde de la recherche académique. Et j'ai fait plusieurs fois les transferts entre les deux, la passerelle. Je pense que donc on est bien dans le thème. Et ça peut intéresser donc à la fois les étudiants qui sont ici, des chercheurs, des doctorants, mais aussi les entreprises. Parce que je pense que c'est deux publics qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et qui gagnent à travailler ensemble parce qu'il y a une méthode différente, une posture différente du chercheur qui apporte forcément dans l'entreprise. Et aussi l'entreprise qui apporte des choses à la recherche, évidemment. Et très parfois, il y a une trop forte séparation entre les deux. Et je pense que c'est l'objet de cette journée de rassembler en fait ces deux populations. Alors, mon parcours, pourquoi ? Alors, je suis d'une formation très académique en économie. C'est-à-dire qu'en fait, tout petit déjà, j'essayais d'avoir une compréhension du monde en observant, comme vous sûrement, je pouvais passer les après-midi à observer les fourmis qui bougeaient entre elles, qui formaient quelque chose, qui formaient un parcours, elles travaillaient, il y avait un côté laborieux chez elles, qui m'obnubilait, et en fait, c'est quelque chose qui restait pendant toute, et encore aujourd'hui, je me pose cette question, et je pense que vous la posez aussi, de pourquoi nous travaillons, qu'est-ce qui nous pousse le matin à prendre le métro, de passer la journée derrière un bureau, et de rester comme ça toute la journée à travailler. Il y a quelque chose qui nous pousse à le faire. Alors, la première réponse, c'est dire l'argent, oui, c'est un peu facile, parce que je pense qu'on est à forcément d'autres motivations, et si vous êtes là ce soir, c'est aussi parce que vous avez, je pense, d'autres motivations que l'argent. Mais voilà, c'est essayer de savoir qu'est-ce que nous cherchons dans le travail. Et qu'est-ce que nous cherchons finalement, quels sont après les buts différents dans la vie. Et c'est pour ça que aussi j'ai un titre un peu l'engagement dans le travail et changer la vie qui est peut-être un peu fort, mais je vais vous expliquer pourquoi sur la fin. Ce qui est en fait intéressant, c'est que je suis parti dans l'économie et là j'ai trouvé des outils assez élégants qui sont ceux très scientifiques des mathématiques, des formules qui arrivaient à prédire en quelque sorte, à prévoir le comportement des êtres humains, donc tels des fourmis cette fois-ci, mais avec un visage humain. On arrivait à créer des patterns entre elles, on pouvait faire des projections à partir de formules assez élégantes. Ça m'a beaucoup plu, donc je suis allé à un plutôt haut niveau en économie, mais très vite en fait je me suis rendu compte que c'était, il y a quelque chose qui me manquait, c'est que la théorie, ça m'intéressait. Je trouvais un intérêt intellectuel dans la théorie, mais il me manquait quelque chose de concret. C'est-à-dire que J'avais envie de laisser aussi de mon empreinte dans la réalité, chose que ne me permettait pas la théorie économique. Et c'est pour cela que j'ai intégré une start-up, donc juste après avoir terminé mes études en économie, j'ai intégré une start-up où je suis arrivé là dans un monde qui m'était totalement inconnu, c'est-à-dire que j'arrivais dans un monde où on était à 4 dans un petit bureau de 9 mètres carrés, qu'on était à travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7, mais avec des réflexions très courtes, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un sujet qui arrivait sur la table, c'était une réponse dans la journée. Il fallait que ce soit des prises de décision très rapides. Chose à laquelle on est très peu habitué dans le monde de la recherche, où on est plutôt dans le temps long de la réflexion, ce qui est très bien, et ce qui est, je pense, le fondement même de la science. Mais et justement, j'apportais quelque chose aussi dans ce monde, qui était parfois d'essayer d'avoir une vision plus long terme, d'être plus stratégique. Et c'est pour ça que je pense que le chercheur et l'étudiant qui a fait des études très académiques a toute sa place dans l'entreprise pour ce qu'il apporte en fait dans la prise de recul face aux enjeux court terme. C'était une expérience de 2 ans, une expérience forte d'enseignement, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé dans une entreprise où on était 4, et quand je suis parti, on était 30 au bout de 2 ans. Donc c'était un fort développement, une très belle expérience. Mais j'ai constaté aussi une chose, et c'est en ça que j'aimerais parler d'engagement dans le travail, c'est finalement, au fur et à mesure que l'entreprise avançait, donc il y avait de nouvelles personnes qui arrivaient dans l'entreprise, j'ai vu un lien social qui s'est finalement détendu. C'est-à-dire que d'une équipe très forte au départ, on commençait au fur et à mesure que des personnes arrivaient, ce qui est finalement, je trouve, contre-intuitif, il y avait une moins bonne cohésion d'équipe. Alors que je pense que ici, les personnes qui travaillent doivent être très sensibilisées à ces notions de DRH, qui sont justement de créer une culture d'entreprise qui fédère ses employés entre eux. Et c'est vraiment, c'est une question qui m'a omnubilé en quelque sorte pendant ces 2 années, de savoir pourquoi pourquoi on n'arrivait plus à travailler ensemble, finalement, c'est ça la question. Et je pense que c'est une des questions importantes de société, c'est travailler ensemble, vivre ensemble, qui est important. Et pour cela, je pense qu'il y a il faut rechanger la stratégie de l'entreprise. Pour moi, la stratégie de l'entreprise, ce n'est pas de vendre des produits à des clients extérieurs. Le principal client de l'entreprise, ce sont ses salariés. Et l'entreprise, si elle existe, c'est réellement pour fédérer des employés entre eux, pour donner sens à une communauté. Et je pense que les ventes de l'entreprise, donc les biens et services qu'elle peut produire, sont finalement des produits dérivés de cette cohésion d'équipe. Et s'il y a un message que j'aimerais faire passer ce soir, c'est ça. C'est quand on travaille ensemble, on travaille avec d'autres personnes. Et c'est très important, à la fois en recherche et à la fois dans l'entreprise, que de travailler ensemble et de donner du sens à ce que l'on fait au quotidien et de prendre en compte toujours son collègue, et de savoir que finalement on travaille pour un client, mais on travaille aussi en fait pour ses salariés, on travaille pour les personnes, pour ses collègues et pour les personnes à qui on vit ensemble une bonne partie de notre temps. Et je pense que c'est important de rappeler ça. Alors pourquoi je suis parti et pourquoi vous devez demander pourquoi maintenant je suis ici à faire de la sociologie, parce que j'aimerais en fait réfléchir à cette question qui est qu'est-ce qui nous pousse encore à faire un travail. Donc j'ai pas la réponse. Aujourd'hui, mon terrain, c'est les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs notamment. Donc s'il y en a dans la salle, je serais ravi de les rencontrer pour qu'ils me racontent leur histoire. Parce que la méthode que j'emploie ici, c'est une méthode, et on en a déjà parlé, donc je ne vais non plus pas m'apesantir dessus, c'est la méthode des récits de vie, c'est-à-dire que je recueille les parcours biographiques de ces jeunes entrepreneurs qui ont préféré créer une entreprise plutôt que de partir sur une carrière plus classique. Et j'aime cette méthode parce que justement elle remet finalement l'humain au centre de la science. Maintenant, l'individu n'est plus qu'un seul individu semblable aux autres, avec une rationalité qui peut être la même. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir quelle est la part de personnalité, de spécificité qu'il y a en chacun, et quel est ce qui l'amène à donner du sens à sa vie, dans son travail, notamment dans l'engagement, dans le travail. Donc je ne vais pas apporter de réponse sur qu'est-ce qui nous pousse à travailler tous les jours, mais j'espère aussi vous avoir quand même apporté ce petit élément de réflexion autour de pourquoi nous travaillons au quotidien avec d'autres personnes et qu'est-ce qui peut rendre bon le travail ensemble. Je vous remercie.
Moi, j'aurais une question au sujet de la BD. Voilà. Quand vous vous expliquez qu'à un moment, vous êtes mis à faire de la BD, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a motivé ce plongeon dans cet autre médium, en fait. Qu'est-ce qui fait que ça apporte une complémentarité, une finesse dans la façon d'aborder la complexité du quotidien, enfin du travail. Voilà.
Ça va être compliqué de répondre rapidement, mais je vais essayer quand même. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que c'est arrivé à un moment où j'avais besoin d'exprimer différemment des résultats de sociologie sous un format un peu plus amusant pour prendre de la distance vis-à-vis du style qu'on nous impose à l'université. Donc voilà, il y avait déjà cette envie un peu d'utiliser un langage différent, langage de la bande dessinée que j'apprécie particulièrement par ailleurs. Donc voilà, c'est pas pour rien que je me suis investi dedans, c'est parce que c'est aussi une passion. Et aussi, si j'ai prolongé, c'est parce que je me suis rendu compte que c'était particulièrement, ça apportait véritablement quelque chose à ma recherche, notamment l'ethnographie dessinée. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais ça m'a permis véritablement de repenser ma manière de faire de l'ethnographie. Donc c'est pas que dans un sens, ouais, les avantages. Ouais. Mais pour parler vraiment du plongeon, pourquoi est-ce qu'à un moment donné j'ai décidé de le mettre sur Internet? Alors c'était très intéressé, c'est juste que j'ai eu vent à un moment donné qu'il y avait des initiatives qui se lançaient, qui essayait de mettre en lien la sociologie et la bande dessinée, à savoir une bande dessinée que je vous recommande à tous, qui s'appelle « Riche, pourquoi pas toi » de Marion Montaigne, qui est coécrit avec les Pinsons Charlot. En fait, j'ai appris quelques mois avant qu'elle allait sortir, et je m'étais dit « mince, j'avais eu l'idée ». Et j'avais juste envie de mettre quelque part sur Internet que bon, j'avais quand même eu l'idée avant. Voilà, et en fait, la magie des réseaux sociaux fait qu'il y a eu tout de suite beaucoup d'échos, et qui était très encourageant et qui nous a encouragés à continuer. Donc voilà.
Ok, merci. J'avais une petite question aussi pour Gauthier. Je suis très curieuse parce que moi, on est confronté, moi aussi, on est dans un format start-up à Conversation. Et on est censé prendre du temps et on est toujours rattrapé par le fait d'aller vite et de produire. Et j'aurais bien aimé juste avoir un petit peu plus de feedback sur la façon dont vous y êtes pris pour ralentir le temps dans une start-up et convaincre les autres qu'il est bon de prendre du recul. Parce que ça, c'est quand même une sacrée gageure.
Alors, j'ai peur de vous décevoir. Mais justement, c'est très compliqué de ralentir la machine. Parce que justement, on est toujours dans ces actions à prendre très rapides tous les jours, des objectifs à atteindre sur la semaine. Mais c'est aussi pour ça qu'à la fin, il y a une certaine forme d'étouffement. C'est-à-dire que pour une personne qui a la réflexion plutôt sur le long terme, qui pense loin, entre guillemets, qui a besoin d'avoir le temps de la réflexion pour rentrer dans l'action, il y a un côté très frustrant dans l'entreprise parce que on doit prendre des décisions sans avoir pris tout le temps de la réflexion avant. Et donc, on est toujours en train de dire, on prend une décision qui n'est pas forcément la bonne, mais il faut la prendre. Donc, on y va. Je pense que le début de solution qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est de toujours avoir, et je pense que les startups qui réussissent et celles qui vont très loin, justement, c'est ces startups qui arrivent à se fixer un objectif de long terme, mais qui veulent résoudre un problème, en fait, un problème qui a toujours existé, qui est un problème humain, entre guillemets. Et si elles gardent cet objectif, de résoudre ce problème, et qui est toujours un objectif très lointain et généralement irréalisable à 100% tout de suite, alors ça donne du sens à toutes les actions qu'elles doivent prendre au quotidien. Et très vite aussi, ça apprend à faire un choix dans ce qu'il faut faire dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui est important, c'est ne pas forcément toujours se laisser impacter par l'extérieur et de parfois apprendre, et le chercheur est très bon pour ça, pour parfois rester dans sa bulle et pour réfléchir et après apporter quelque chose. Je pense qu'aussi la start-up a besoin d'apprendre de ça, de parfois essayer de se mettre dans sa bulle, de ne pas se laisser impacter par tout ce qui peut se passer dans son entourage pour avancer dans la direction qu'elle s'est donnée depuis le début. Voilà.
Alors on va passer la parole à Pascal, voilà, pour nous présenter l'Abscoop Project.
Merci Paul aussi de m'avoir proposé de participer à cette journée où ma présence est un petit peu incongrue parce que je suis plus tout à fait une jeune chercheuse, mais le projet dont je vais vous parler, changez la diapo, le projet dont je vais vous parler est lui un projet qui est tout jeune, qui est même encore quasiment embryonnaire, et je mène une double vie puisque je suis à la fois doctorante à l'université de Nanterre et maître de conférence ici à l'EHESS depuis 2003. Alors, pour vous situer un peu le projet, je vais revenir très très brièvement sur mon parcours. En fait, je suis arrivée à l'EHESS un peu par, parfois tendance à dire, une erreur de casting. Je travaillais sur un texte de grammaire indienne, une grammaire sanscrite du 5e siècle avant notre ère. Je ne sais pas si vous connaissez le film, on connaît la chanson et les chevaliers paysans du lac de Paladru, Durmil, etc. C'était encore pire, la grammaire sanscrite du 5e siècle avant notre ère, avec tous ses commentaires jusqu'au 19e. Je me suis rendu compte très vite que ce que je faisais ici à l'école n'intéressait personne. Il y a même une année où on était deux coordinatrices du séminaire et on avait comme auditrice une professeure de yoga retraitée qui venait vaillamment semaine après semaine pour pas trop nous décourager. Et ça m'a amenée à me poser beaucoup de questions. Et notamment la question de l'utilité des recherches, du sens de ce parcours. Et j'ai décidé, à un moment, et j'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée à l'école dans ce parcours, j'ai décidé de reprendre un cursus d'études, un cursus de psychologie à l'université de Nanterre. Et j'ai terminé mon doctorat il y a 2 ans. J'ai travaillé sur le stress des étudiants. Je me suis rendu compte, dans cette reprise d'études, en ayant du recul, en étant moi-même enseignant-chercheur, donc avec la sécurité de l'emploi, que les étudiants autour de moi étaient très stressés. Et en étendant cette réflexion, vous avez tous été écoliers, peut-être certains d'entre vous ont des enfants, des petits-enfants à l'école, je me suis rendu compte que les étudiants n'étaient pas les seuls à être stressés, les enseignants aussi, et les enfants encore plus. Dans l'OCDE, la France est l'un des pays où les enfants sont le plus stressés, le plus anxieux. Parmi les pays de l'OCDE toujours, les enseignants sont ceux qui se plaignent le plus de ne pas être reconnus. Accessoirement, ils sont aussi parmi les plus mal payés, d'ailleurs. Il y a 15% des enfants qui sont en difficulté scolaire. Et donc, au terme de mon master, je me suis demandé ce que je pourrais faire. Et j'ai eu envie vraiment, cette fois, de faire quelque chose qui avait du sens, quelque chose qui pouvait être utile, quelque chose qui puisse contribuer au renouveau éducatif. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans ce que j'ai appelé le Lab School Project. Parce que pour essayer de contribuer à ce renouveau éducatif, je me suis inspirée de ce qui se faisait ailleurs. Ailleurs, en l'occurrence en Amérique du Nord, on a ce qu'on appelle des lab schools, qui sont des écoles adossées à une équipe de recherche, à un laboratoire de recherche le plus souvent. Ce sont des écoles normales, avec des enfants de niveau primaire ou collège. Mais toutes les recherches, enfin toutes les pédagogies qui sont mises en place, toutes les expérimentations sont évaluées et puis sont disséminées aussi. Les lab schools ne travaillent pas en vase clos, elles travaillent avec d'autres écoles dans la région et parfois dans le monde entier. Si je vous donne l'exemple de la lab school de UCLA en Californie, sur leur site, on voit tout un réseau d'écoles. Leurs valeurs qui sont affichées sont la diversité, permettre l'accès à tous les milieux, y compris les plus défavorisés, à l'éducation, et permettre à chaque enfant de déployer son potentiel, de trouver ses modes d'apprentissage, de trouver sa voie et d'être intégré à la société. Donc ce sont des valeurs qui m'ont beaucoup parlé. Mais en France, ça n'existe pas. Et bien plus, sur la liste de UCLA, il y a des écoles du monde entier, de l'Inde, de Chine, d'Allemagne, d'Italie, qui ont travaillé avec eux. Il n'y en a pas une seule en France. Alors j'ai pris contact avec eux, j'attends la réponse, hein, j'espère pouvoir y aller. Mais en attendant, je me suis dit qu'il fallait qu'on essaye de faire ça en France, en l'adaptant évidemment. Il n'y a pas, à ma connaissance en France, une école qui soit adossée à un réseau de recherche. Il n'y a pas d'équipe, que ce soit de chercheurs en sciences de l'éducation ou d'autres, qui travaillent systématiquement avec des écoles. Il y a plein d'initiatives qui sont disséminées, et notamment... depuis les années 70, des dizaines d'expérimentations pédagogiques qui ont eu lieu et qui ne sont en général pas pérennisées, faute d'évaluation. On ne sait pas si les résultats ont été positifs, pas positifs. Ce qu'on sait au terme de 30 ans de recherche, par exemple, c'est que, pour prendre un exemple très connu, la méthode globale de lecture a fait beaucoup de dégâts. Et très récemment, deux sociologues ont mené, à Créteil, je crois, ont mené une enquête qui montre que cette méthode globale a fini par accentuer les inégalités sociales, parce que les enfants de milieux favorisés s'en sortaient quand même, alors que les enfants de milieux défavorisés, qui auraient eu besoin de passer peut-être par une méthode plus structurante, plus syllabique, n'ont pas bénéficié de cet apprentissage et donc se sont trouvés encore plus en situation d'échec. Alors c'est un grand défi pour moi, parce que d'abord je viens d'études de grammaire sanskrite, ensuite j'ai fait des études de psychologie, je ne suis pas a priori la personne la plus qualifiée pour me lancer dans cette recherche, et donc je ne vais pas m'y lancer toute seule. Et j'ai commencé par contacter un certain nombre de chercheurs, et j'ai eu la chance de rencontrer différentes personnes, dont une maître de conférence, maîtresse de conférence d'une ESPE, l'ESPE de Créteil, qui a fait sa thèse ici à l'école, qui s'appelle Lila Belkacem. Et le fait de travailler main dans la main, psychologue et sociologue, mais aussi maître de conférence dans une école comme le HESS et quelqu'un qui travaille dans une ESPE, me semblait une garantie de mettre en lien, dès le début, les chercheurs avec les pédagogues. Parce que j'ai oublié de le dire, mais depuis les années 90, depuis l'émergence des départements de sciences de l'éducation dans les universités, il y a vraiment une sorte de clivage entre les pédagogues et les chercheurs. Et je pense que ce projet de Lab School Project peut contribuer à enrichir le dialogue entre ces milieux professionnels. Alors une fois qu'on a un réseau de chercheurs, j'ai pris contact aussi avec des associations de pédagogie innovante, des associations qui luttent contre le décrochage scolaire. Et nous avons demain, à la Cité des Sciences, une première rencontre entre ces différents acteurs pour voir comment on va pouvoir travailler ensemble, comment on va pouvoir avancer. Et je suis très reconnaissante au carrefour numérique de la Cité des Sciences qui nous accueille dans son Living Lab pour cette première rencontre. Une fois qu'on a un réseau de chercheurs, on n'a pas pour autant une école. Alors pour l'école, j'ai rencontré des parents de deux écoles alternatives qui se trouvent l'une à Pantin et l'autre dans le 19e, donc c'est dans le nord-est parisien. Et ces parents sont très concernés par le devenir de leurs enfants. Et ça s'inscrit dans un mouvement plus large d'individualisation des parcours. De plus en plus de parents soit déscolarisent leurs enfants, soit créent leurs propres écoles de façon à répondre à leurs besoins. Et il y a même une fondation qui s'appelle la Fondation pour l'école, qui est une fondation reconnue d'utilité publique et qui a pour rôle unique d'encourager différents acteurs, enseignants, parents, éducateurs, à créer des écoles indépendantes. On peut y obtenir des subventions, on peut trouver des conseils pour créer l'école sur les structures juridiques, sur le recrutement des professeurs. Enfin, c'est un outil vraiment très, très utile, hein. Enfin, une fondation très utile. Et nous allons nous appuyer sur cette fondation avec ce groupe de parents pour créer une école qui, dans un premier temps, par la force des choses, sera une école indépendante, une école alternative, puisque, vous le savez peut-être, avant de pouvoir obtenir le statut d'école sous contrat, il faut 5 ans d'existence, et il y a toutes sortes de conditions, être dirigé par quelqu'un de l'éducation nationale, etc. Or, cette Lab School, on veut, dans un premier temps, pouvoir disposer de toute liberté pédagogique, liberté de recrutement aussi des enseignants, et pouvoir travailler d'emblée avec d'autres acteurs de l'éducation nationale, c'est-à-dire pouvoir partager les expériences qui seront faites et les disséminer et les mettre en place éventuellement dans d'autres écoles aussi. Et donc pour ça, on a besoin d'une grande liberté. Alors cette école, elle commencera par le maillon faible, c'est-à-dire le collège. Nous allons nous placer sur les cycles tels que l'éducation nationale les met en place à partir de la rentrée 2016, c'est-à-dire un cycle 3 qui couvrira le CM1, CM2 et la 6e, et le cycle 4 qui couvrira 5e, 4e, 3e, avec l'idée d'avoir des classes multiniveaux, parce que dans cette école, on se fondera sur les recherches, et les recherches qui montrent ce qui marche, ce qui est efficace. Et parmi les choses qui marchent, qui sont efficaces, on sait que les classes multiniveaux sont un grand facteur de réussite. Ça permet de mettre en place du tutorat par les pairs. Ça permet aux plus grands d'aider les plus jeunes, ce qui est non seulement très intéressant pour les plus jeunes qui ont tendance à s'identifier aux plus grands et donc aux plus âgés et à vouloir faire comme eux, mais c'est très utile aussi pour les plus âgés, d'abord parce que ça leur permet d'éclaircir leur manière d'expliquer les choses, de se rendre compte de ce qu'ils ont compris ou pas compris, et en plus c'est extrêmement valorisant. Ça cultive pas seulement les compétences cognitives, mais aussi des compétences sociales qui sont la bienveillance, hein, qui sont le fait de devenir attentif à l'autre, hein, le fait de pouvoir reconnaître quand on ne sait pas et de se faire aider. Et l'un des piliers de cette école, ce sera la bienveillance. C'est la bienveillance des enseignants à l'égard des enfants. C'est la bienveillance des enfants entre eux et avec toutes sortes d'outils qui sont mis en place. Et ces outils, on ne les invente pas. On va aller s'inspirer des méthodes qui existent déjà, la pédagogie Freinet, la pédagogie Montessori, la pédagogie Steiner, et aussi des recherches plus récentes en neurosciences ou en éducation, comme par exemple la psychologie positive. Donc on va se servir de tous les outils qui sont en place. Tout ce qui sera mis en place sera fait à la demande des enseignants en collaboration avec des chercheurs, de manière à pas faire n'importe quoi, à pas lancer des choses au hasard, hein. Mais aussi, dans cette école, les parents et les enfants seront consultés. Ça sera une école qui est démocratique, hein, dans la mesure du possible, qui vise vraiment à former ou à accompagner les enfants pour qu'ils puissent devenir, les événements récents nous montrent qu'on en a plus que jamais besoin, des citoyens éclairés, des citoyens autonomes, libres, responsables et épanouis. Et pour cela, nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin de chercheurs, même s'il y en a déjà parmi nous, nous avons besoin d'enseignants, peut-être de personnes qui peuvent contribuer à partir de supports différents, à créer du lien et à faire comprendre les choses qu'il y a à comprendre. Une école ouverte sur le monde, ouverte sur la société. On souhaite vraiment que cette école ne soit pas réservée à un public privilégié, et donc on est à la recherche aussi de partenaires, de sponsors et de mécènes, de façon à pouvoir appliquer soit un quotient familial, soit que ce soit une école qui soit vraiment pas chère pour tout le monde. Et donc pour cela, on a besoin aussi de partenaires, d'entreprises ou de mécènes pour nous aider à créer cette école et à créer les réseaux qui pourront permettre de disséminer ces recherches au-delà de l'école, dans tous les publics d'écoles privées ou publiques qui en feront la demande. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Voilà, donc nous avons eu ces interventions qui sont vraiment passionnantes. Et moi qui ne suis pas sociologue, ce que j'ai trouvé vraiment de très, très intéressant et qui réunit tout ce qu'on a entendu, c'est que au-delà de l'idée de passerelle, c'est-à-dire d'aller dans d'autres territoires, d'aller voir ailleurs, d'échanger des expériences, c'est aussi de s'ouvrir et de se saisir de différents moyens de recherche et d'expression. Et je trouve que ça caractérise vraiment tout ce que vous nous avez raconté. Et c'est vraiment extrêmement riche. Voilà.